Ce générique, vous le connaissez si vous êtes des auditeurs réguliers de Radio PFM, c'est celui d'Easy Rider, une émission bien rock'n'roll, diffusée en direct tous les dimanches à 18h. Dans le cadre des 30 ans de PFM, on vous propose d'écouter ou de réécouter une interview des animateurs de cette émission, une interview qui a été réalisée en 2006 à l'occasion des 25 ans de la radio. On les avait rencontrés en même temps que Bruno qui animait auparavant une autre émission bien rock'n'roll elle aussi, Real Cool Trash. On écoute ça.
Sylvain, animateur d'Easy Rider depuis 1989.
Olivier, animateur d'Easy Rider depuis 1989 également, il ne reste plus que deux.
Et Bruno, animateur de Real Cool Trash depuis 1984 et jusqu'à 2004.
Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment au départ vous avez entendu parler de Radio PFM et puis comment est venue l'idée aussi de faire de la radio vous-même ?
Oui, en fait, je me souviens, c'était donc en 89, on arrive au lycée sur Arras, et puis on rencontre plusieurs personnes, plus ou moins bab, qui étaient sur Arras et qui...
PFM était encore une radio de gauche.
C'est vrai, c'est vrai. À l'époque, sur PFM, on écoutait beaucoup Yes, Genesis, Creedence Clearwater Revival,
Simple Minds.
Simple Minds. Et c'est vrai que, on arrivait là, et puis on nous a proposé de faire une émission avec deux ou trois autres gars. Je me souviens plus bien, ça remonte, hein, c'est un peu vieux. Une émission qui s'appelait Rococo, ça, je me souviens très bien. Et donc, on a fait partie de cette émission Rococo. Pendant deux ou trois émissions, et en fait, ils nous ont virés. Parce que, c'était. Enfin, on rentrait pas trop dans le cadre, je crois, de ce que eux voulaient faire. Hein. Vu des groupes précédemment cités, on avait commencé à ramener des choses un petit peu plus violentes, et donc ça a pas trop marché. Donc, de ce fait-là, on a décidé de créer notre propre émission qui s'appelle Easy Rider depuis cette période-là, avec le même générique.
Alors moi c'est une longue histoire en fait, mais je vais essayer de la faire courte. J'ai découvert PFM quand ça s'appelait encore Radio Provisoire, c'était en 83, j'étais au lycée et j'étais invité par un gars qui était dans ma classe qui est venu de faire une émission, donc j'étais invité pour faire une émission avec lui. Et donc j'ai fait 2-3 émissions avec lui cette année-là, et après j'ai pas fait partie de PFM à ce moment-là. Mais en fait bizarrement 6 mois après, il y a un autre gars qui vient me chercher pour faire une émission automobile. Parce qu'on avait parlé de ça au lycée, justement. Je commence avec lui, ça dure quelques semaines, lui s'en va, et en plein mois d'août, je décide de basculer de l'émission automobile à l'émission musicale, quoi. Donc ça s'appelait, le premier nom de l'émission, ça a été Provisoire Rock, et ça, c'était en août 84.
Et qu'est-ce qui vous motivait, en fait, dans le désir de faire de la radio? Est-ce que c'est parce que vous aviez une passion à partager, ou est-ce que vous aviez aussi une sorte de background au niveau radio? Est-ce que vous écoutiez d'autres radios, notamment des radios belges à l'époque?
Je pense qu'au départ, on n'a jamais voulu l'avouer, mais c'était uniquement pour les filles, hein, quand on faisait une émission de radio. Très très rapidement, on s'est rendu compte que ça servirait à rien. Oui, quand des maîtres à penser, des choses comme ça. Oui, je pense que les radios belges à l'époque représentent toujours ce qui se faisait de mieux dans le paysage radiophonique, au moins dans la région. Comme on disait tout à l'heure, je pense qu'Olivier, c'est la même chose. On a beaucoup écouté une émission qui s'appelait Rock à Gogo
par
Jacques de Pierrepont sur une radio belge qui s'appelait Radio 21, qui n'existe plus et malheureusement aujourd'hui. Ça a quand même été, en ce qui me concerne, la grosse influence. Maintenant, le but avant tout était de s'amuser, comme on l'a dit, de ne pas se prendre au sérieux, de passer les disques que nous, on écoutait entre nous. Et nous, on est arrivé à la fin des années 80, qui était quand même une des plus sombres périodes de l'histoire de la musique. Mais je pense qu'on a quand même su, avec d'autres, comme Bruno, démontrer qu'il y a eu des choses bien et très bien pendant les années 80, et que la fin des années 80 était quand même un tournant extrêmement intéressant dans le rock'n'roll.
Ah, peut-être toi aussi au niveau des influences radio.
Ah ouais, bah c'est un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à écouter des radios au début des années 80, des radios régionales, donc il y avait Fréquence Nord à l'époque qui avait quelques bonnes émissions de rock au sens large. Et il y avait Ludie Snob par exemple, ouais, bon Jacques de Pierrepont pareil, hein, Radio 21, et puis en particulier aussi une émission au niveau rock'n'roll qui m'a un petit peu ouvert la voie pour tout ce que j'ai fait après, qui s'appelait Domino, et c'était sur la radio belge flamande. Et ils étaient hyper pointus à l'époque, et j'étais complètement accro à ce genre de trucs. Et ça m'a fait découvrir plein de trucs, quoi. J'ai quasiment commencé dans la foulée, en fait, à passer ce genre de trucs.
Hey, this is not a test. This is rock and roll. This is rock and roll. This is rock and roll.
This is rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll.
Rock and roll. Where's that good old bunny hug and turkey trot in Charleston? And what about the karaoke and the bunny hug, huh? Them was dances. You dance your brains out with those kind of steps. Rock and roll.
Will you shut up?
Here, buddy, relax. The sun's still high. You can try it again. I'll even time you this time, and I got a perfect movement.
Move
it. Minus four! Minus three! Minus two! Minus one! Blast off!
Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas en radio? Bon. Est-ce que vous êtes passé par la formation avec Bernard ou comment ça se passait un petit peu comment ça se passait un petit peu à l'époque pour à la fois rentrer dans la radio puis pour s'emparer de cet outil?
Non, en fait, je me souviens que quand on a débuté, c'était beaucoup moins, je pourrais dire, on va dire, strict par rapport à maintenant. Il n'y avait pas les 6 mois de formation comme il y a actuellement, ça c'est sûr.
Et c'était bel et bien une radio de gauche et Bernard était dans sa période hard junkie berlinois. Et je pense qu'il ne réalisait pas toujours à qui il pouvait donner le micro. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance énorme de n'être absolument pas formé. Et on s'est formé sur le tas. Et avec le recul, je pense que les 200-300 premières émissions, ça s'est senti quand même.
C'est vrai. Mais c'était peut-être un avantage aussi parce que je trouve que depuis des années et des années, ça fait des années et des années qu'on ne prépare rien, qu'on ne prépare pas. On vient juste avec nos disques. On n'a rien d'écrit, jamais. C'est jamais écrit. On ne sait même pas quel morceau on va passer. Et on fait un peu ça au feeling, en fait, complètement. Et je crois que, en fait, c'est ça, c'est le fait d'avoir démarré comme ça un peu en roue libre et de faire un petit peu ce qu'on voulait qui nous a permis petit à petit de nous affranchir et puis de pouvoir s'adapter au dernier moment et de faire une programmation musicale comme on la sentait sur le moment venu. Et c'est toujours comme ça, en fait. Il n'y a jamais rien d'écrit, jamais rien de prévu.
Alors Proviso Rock, ça a commencé aussi à une époque où Bernard n'était pas permanent à PFM, et j'oserais dire d'ailleurs qu'il n'était pas entièrement formé, Bernard aussi, physiquement, et il avait encore ce côté adolescent qui lui va encore comme un charme aujourd'hui d'ailleurs. Mais à l'époque donc il y avait effectivement cette liberté dans le démarrage, il n'y avait pas de formatage quel qu'il soit, et donc forcément ça donnait du très bon et du très mauvais. Et moi je me suis un petit peu pour Easy Rider, je me suis formé sur le tas, quoi, et un petit peu à la fois, j'ai fini par me rendre compte que la liberté de ton avec l'expérience, ça permettait de se passer d'une préparation hyper rigoureuse, quoi. Et je trouve que ça maintient d'ailleurs une certaine spontanéité aussi. Mais bon, faut aussi pouvoir le faire, et on n'est pas toujours en forme non plus, quoi. Donc ça donne aussi des émissions parfois, franchement. Franchement raté, mais c'était quand même une époque assez lointaine où, comme beaucoup d'autres radios du même genre, hein, il n'y avait pas vraiment de préparation à l'antenne, quoi. Donc c'est vrai que quelque part, n'importe qui débarquait pouvait faire une émission et ça passait ou ça cassait, quoi. Moi, ça va, je pense que c'est à peu près passé correctement. C'est à peu près passé correctement et ça a passé correctement. Et après, en fait, tu te mets dans le bain et c'est un petit peu ce que disait Olivier à l'instant, c'est-à-dire que tu finis par prendre des réflexes et tu peux te passer d'une préparation parce que tu maîtrises bien ton truc et. En fait, tu peux te pointer, faire une émission sans avoir préparé grand chose, quoi. Un petit peu le faire au feeling. Et ça, c'est le côté appréciable aussi de ce genre de radio, justement. C'est une vraie spontanéité et tu peux vraiment un petit peu mener ta barre comme tu veux, quoi.
La radio, c'est aussi beaucoup de rencontres, hein, via la musique. Je me souviens que, par exemple, à une époque, ou à l'époque où j'ai commencé à écouter cette radio, il y avait une émission, et je pense que c'est vous qui la diffusiez, c'était une émission australienne qui s'appelle de Big Backyard. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est fait, cet échange entre une radio locale arrageoise et une émission australienne?
Bah écoute, les circonstances exactes, je ne me rappelle pas trop. Hein. Je sais que j'avais eu le contact de Big Backyard, donc une émission australienne qui était faite par une grosse radio indépendante australienne à l'époque, et dont le but avoué était en fait d'exporter la musique australienne au sens large un peu partout dans le monde. Donc c'était un produit qui était fourni sous forme de CD et qui était envoyé gratuitement en fait à tous les gens qui s'abonnaient, à toutes les radios qui s'abonnaient. Donc ça s'est fait comme ça. Et ça passait bien, je trouvais, par rapport à Easy Rider et à Provisor Rock ou Cool Trash par la suite, parce que justement, il y avait un cousinage entre les deux émissions, quoi. Enfin, Big Backyard c'était beaucoup plus large, il y avait des trucs qui n'étaient pas du tout dans notre créneau, mais à côté de ça, on retrouvait dans Big Backyard des choses qu'on entendait aussi dans Real Cool Trash ou bien dans Easy Rider, des trucs australiens dont on est fan et tout ça. Et ça s'est fait comme ça en fait, tout simplement. Les circonstances exactes, je te dis encore une fois, je me rappelle pas exactement comment j'ai eu le contact, mais ça s'est fait très simplement par un échange de courrier, et puis voilà quoi, il a suffi d'envoyer quelques playlists et on recevait après les CD régulièrement pendant ça durait 3 ans, je crois, 2-3 ans, quelque chose comme ça.
C'était les précurseurs avant l'heure Big Backyard, parce que ils ont été peut-être une des premières émissions à essayer de faire tourner une émission qu'ils avaient chez eux dans plein de radios en Pologne, aux États-Unis ou en France, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui préfigurait peut-être un petit peu Internet maintenant, parce que c'est vrai que tu peux entendre maintenant n'importe quelle émission de n'importe quel bled pourri aux États-Unis diffusée sur le net, et eux le faisaient comme ça par le fait d'envoyer des CD et de pouvoir être diffusé sur d'autres radios, et c'était une super idée. Ça n'existe plus malheureusement.
Well, that's it for another week on the Big Backyard. Def FX and In Your Mind's Eye, great song. Join us next week for an exposé on Richard Pleasance, ex-member of Big Sound's band Boom Crash Opera. The Yards, produced by Lawrence Boswell and Wayne Fox. This is Nick Bennett. We'll see ya.
Vous écoutez toujours Radio PFM 99.9 MHz. À l'instant, c'était Nick Bennett et puis Big Backyard, présenté en léger différé d'Australie, de Sydney très précisément. Une demi-heure d'actualité musicale australienne présentée en anglais. Et de suite, c'est Real Cool Trash, toujours sur le 99.9 de PFM Radio.
Alors dans vos émissions, vous receviez plus régulièrement à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, des groupes. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est fait, ces rencontres, et puis aussi un mot sur l'assaut Vertigo. Vous avez organisé donc pendant plusieurs un ou deux ans, je crois 10 mois à Arras.
Vas-y.
Je commence et tu termines.
Non,
l'idée de départ, ça s'est fait suite à quelques concerts. D'abord, un concert au niveau de PFM, je crois que c'était l'idée par rapport à PFM d'organiser un concert. Et c'était un groupe que tu avais eu en contact, les Swinging Neckbreakers. Je crois que ça a commencé comme ça. T'es sûr? Ouais. Non, c'est toi qui m'avais dit c'est un super album, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et donc un groupe new-yorkais de garage hyper basique, quoi. Et puis je sais pas, l'idée folle comme ça d'organiser le concert. Donc. Il me semble que c'est toi, mais bref. Ça s'est fait comme ça, on a cherché un endroit où le faire, ça s'est fait avec PFM, avec quelques heures à l'époque pour des histoires de... de flyers qui montraient des pin-ups assez dénudés. Nous, on trouvait que c'était une super bonne idée au niveau d'autres personnes en PFM. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de la radio aussi. Hein. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas renier, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est une radio associative et que ça marche avec des avis différents, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça, un premier concert donc qui a plutôt bien marché à l'époque pour un truc garage. On se rendait pas compte, on était complètement innocents à l'époque, hein, on s'imaginait que ça allait faire 3000 personnes. 160 au Pharos à l'époque, c'était déjà pas mal, encore une fois, pour un truc de garage que personne n'écoutait à l'époque. Et puis de là, en fait, de Mélanie et Olivier est venue l'idée de monter une asso qui avait pour but d'organiser des concerts. Et ça a duré peu de temps, mais ça a été quand même 10 mois assez chaud. En fait, entre septembre 94 et juillet 95, je crois, une douzaine de groupes en l'espace d'autant de mois. Beaucoup de plaisir à faire ça, toutes les angoisses qui vont avec, du fric un peu perdu aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis après, on est chacun passé à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que le côté, moi, les souvenirs que j'en ai aujourd'hui, c'est surtout c'est que des bons souvenirs, quoi, parce que ça a été une super expérience de faire débarquer des groupes d'Australie, de New York, d'un peu partout, de Scandinavie, sur une péniche à Arras, quoi. Enfin, bon, Olivier pourra en parler de cette péniche, parce qu'il y a quand même des trucs qui se sont passés là-bas, quoi.
Mais en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que c'était peut-être... On l'a peut-être pas fait à la bonne époque, parce que je me souviens, en 94, c'était peut-être plus le rap, l'électro qui commençait et tout ça. Et c'est vrai que le rock était pas du tout porteur. Avant, t'allais à un concert, il y avait 20 pelés, t'avais pas besoin d'acheter ta place. T'essaieras de faire ça maintenant, tu vas te retrouver à la porte et t'as plus de tickets. Donc, on aurait dû le faire peut-être maintenant, mais maintenant, on est un peu trop vieux. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que, à l'époque, ça a été difficile, hein. On a fait ça qu'un an parce que bon, on a quand même perdu du fric. Puis on était plus ou moins étudiants, enfin plus ou moins on bossait un peu, mais c'était pas tellement ça. Donc, et puis au niveau de la fatigue, c'était dur parce qu'on était en gros que 4, et donc on a fait une bonne dizaine de concerts, comme tu le disais, plus peut-être 5-6 soirées, si je me souviens bien, pour un peu amortir les concerts où on se plantait.
Et on s'est planté sur les soirées aussi d'ailleurs. Donc,
Et on s'est planté là-dessus, sauf qu'elle coûtait moins de pognon, donc ça allait. Et donc voilà quoi, et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de contacts avec des groupes. Et par la suite, il y a eu quelques groupes avec lesquels. Parle là surtout pour moi. Moi, j'ai fait tourner quelques groupes. Avec Mélanie de Faster Pussycat, on s'était un petit peu occupé de tourner, d'organiser des tournées en France, principalement pour des groupes uniquement, pour des groupes australiens. Et donc, il y a eu beaucoup de groupes australiens qui sont venus jouer à l'antenne de PFM, sur l'antenne de PFM, suite à ces tournées qu'on avait organisées pendant 2-3 ans, je crois. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de passages de groupes en acoustique, en électrique aussi, les groupes complets dans les petits studios de Radio PFM. Voilà un petit peu pour répondre à ta question sur les groupes qu'on pouvait entendre en direct sur PFM.
Il y a eu aussi un truc qui était vachement important, c'était le lieu où on avait organisé ces concerts. Il y avait quelques trucs au Pharos quand même à l'époque, mais il y avait surtout un endroit donc, qui s'appelait les Tontons Flingueurs, donc déjà un nom vachement rock'n'roll parce qu'il y a un endroit à Rennes comme ça qui est assez connu, une salle de concert. Et malheureusement ou heureusement pour nous, je ne sais pas, le lieu a fermé au bout d'un an parce que bon, à côté de ce qu'on y faisait, c'était surtout une discothèque, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. Le lieu était super, mais... La discothèque était ce qu'elle était, pas forcément super bien gérée, et elle a fini par capoter, quoi, couler éventuellement, on pourrait dire. C'est dommage parce que c'était un super lieu, et en plus c'était situé dans un endroit que je trouvais vraiment bien à Arras, pas trop près des maisons, donc assez isolé au niveau bruit et tout ça, avec une licence de boîte de nuit, donc une fermeture à 5h, 6h du matin. Vraiment genre de truc qui aurait pu devenir un lieu culte, et un lieu définitif, surtout sur Arras, ce qui ne s'est pas fait. Bon, après, je veux dire, ça a quand même existé pendant un an avec nous, et ça a été, à mon avis, une expérience assez sympa pour les gens qui ont pu participer à ça, les Arrajois et les autres, parce qu'on avait des gens qui venaient d'un peu partout quand même, quoi.
On commence de suite justement avec un combo qui risque bien de débarquer dans quelques semaines à Arras pour un concert. Ils arriveront d'Australie, de Perth, très précisément. Il s'agit des Early Hours.
Faisiez de la radio pour vous faire des meufs et que ça n'avait pas trop marché, mais finalement ça n'a pas si mal marché que ça parce que vous avez quand même ramené des meufs à la radio qui font aujourd'hui des émissions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, comment ça s'est passé? Est-ce que la radio ça emballe, quoi?
Ouais, ouais. Faut être très clair, on n'a absolument pas besoin de la radio pour emballer. On a toujours eu besoin, quoi, de se pencher pour ramasser, c'est tout. Maintenant, bon, cette rumeur qui perdure depuis des années, comme quoi il se serait passé des choses avec les filles de Faster Pussycat, bon, je crois qu'il faut laisser courir la rumeur parce que ça donne du grain à moudre à des journalistes comme toi. Maintenant, bon, elles ont des enfants, elles font des recherches en paternité, des choses comme ça. C'est bas. Hein, je veux dire, on est rock'n'roll, on peut coucher avec elle une fois ou deux pour leur faire plaisir. Bon, maintenant, après, vouloir faire des recherches en paternité, je trouve ça assez bas. C'est clair qu'on leur a ouvert les portes de la radio, on leur a ouvert des tas de trucs. Hein. Je pense que sans nous, je sais pas où elles seraient. Elles auraient des enfants, probablement, mais beaucoup plus. Et elles sauraient qui sont les pères, surtout. Mais oui, non, bon, on leur a ouvert pas mal de choses, mais comment dire, bon. On a été extrêmement généreux et elles ne nous le rendent pas forcément.
On n'a pas ramené que des nanas sur PFM, on a ramené pas mal de mecs aussi, parce que Easy Rider, c'est une émission où il y a eu pas mal de collaborateurs. Et c'est vrai.
Beaucoup trop.
Ouais, peut-être. Et ça fait un petit moment hein, qu'on est en duo, ça fait quand même pas mal d'années. Mais à une époque, il y a pas mal de monde qui est passé dans Easy Rider. Il n'y en a pas un qui a continué, d'ailleurs.
Hein. On a couché avec aucun des mecs qui a participé à Easy Rider, en fait, clair aussi, même si on a eu des propositions.
Et ça, c'était assez rigolo. Il y a eu deux rubriques ciné dans Easy Rider pendant un long moment. C'est peut-être les rubriques qui ont tenu le plus longtemps dans Easy Rider. Enfin, voilà, quoi. C'est tout. Hein. Juste pour dire ça.
Peut-être est-ce que vous vous souvenez d'un bon souvenir et aussi un mauvais souvenir, enfin, dans votre expérience radio ces dernières années. Ouais, des bons souvenirs, c'est certainement des rencontres, et les mauvais souvenirs, c'est bon.
Les
problèmes de technique, ouais.
Bah écoute, non, franchement, là, j'aurais du mal à sortir un mauvais souvenir de la radio, quoi, parce que. On peut parler de tout ce qu'il y a eu comme problème technique et toutes les merdes qu'il y a pu y avoir à tous les stades de l'évolution de la radio, hein, d'ailleurs. Mais franchement, là, non, moi, j'ai que des bons souvenirs, quoi. Et je peux pas te sortir un bon souvenir en particulier, parce que c'est plus des mois et des années qui se sont suivis comme ça, où franchement, je sortais d'émission, j'étais content et je pensais surtout à préparer la suivante. Et puis voilà, quoi, c'est le genre de truc qui te maintient aussi... qui te permet de garder la niaque, quoi. Et moi, ça a été vrai sur toutes les premières années, parce qu'en fait, je glandais encore à la fac, et franchement, le seul centre d'intérêt que j'avais, c'était l'émission en fin de semaine, et j'y pensais toute la semaine, et je pensais quasiment qu'à ça, quoi. J'ai fait autre chose, mais c'est vrai que c'était le moteur en soi, quoi. L'émission de radio, ça a été le moteur, quoi. C'était le truc... J'étais tout le temps en train de la préparer dans ma tête, et puis je passais mon temps à écouter des disques. En fait, pendant longtemps, j'ai fait que ça, quoi.
Ouais, moi j'ai un mauvais souvenir en tête, et d'ailleurs Sylvain a le même, mais c'est pas vraiment proprement lié à la radio en elle-même, à une émission de radio ou technique ou tout ce que tu veux. C'était plus par rapport aux 10 ans de PFM, je sais pas si tu te souviens Sylvain, où Noir Désir a en fait été organisé comme concert. Et en fait, nous, on se disait, bon, on va essayer de faire quelque chose pour approcher au mieux Noir Désir. C'était il y a une bonne quinzaine d'années.
On avait su à l'époque.
Et en fait, on a joué un peu les rodis. On a déchargé les caisses de Noir Désir et du matériel. Sauf qu'il y avait un smirmorque. Et avec nos petits bras à l'époque, on en a chié. D'ailleurs, on s'est honteusement débiné à la fin pour ne pas ranger les caisses, parce qu'on s'est dit, allez-vous faire foutre, parce qu'on avait passé la journée à démonter des trucs avec des rodis, avec des longs cheveux et des tatouages. Et nous, on était bien jeunes à l'époque. Et c'était pas un bon souvenir, en fait. On n'a même pas vu Noir Désir, d'ailleurs.
Tout à fait.
On s'est fait un peu baiser la gueule.
Et au palmarès des deuxièmes mauvais souvenirs, bah je viens d'en vivre un il n'y a pas très longtemps. Olivier est très récemment retombé sur une cassette d'une de nos émissions d'il y a très très longtemps. Et bah là, juste avant l'interview, il a trouvé bon de rediffuser le début de cette émission qui est absolument catastrophique. Et où, je dois le confesser, je programme en entrée d'émission Lenny Kravitz. Donc ça fait partie dès aujourd'hui, peut-être même avant le concert de Noir Désir, des pires souvenirs de l'émission. On pourrait rajouter en numéro 3 l'arrivée de la nouvelle platine CD aussi à PFM, qui est la pire platine CD que le monde n'ait jamais portée. Je pense que bon, Olivier me rejoindra là-dessus également. La centième d'Easy Rider qui date maintenant, qui a duré 12 heures, qui a été un marathon musical, qui a été du grand n'importe quoi. Je crois que quand même ça reste pour moi le grand moment d'Easy Rider.
Ouais, il y a une époque qui était un peu bénie aussi, c'était l'époque où on ramenait du pinard à picoler. Et bon, on n'a pas fait ça très longtemps parce que bon, c'est vrai que ça partait vite en couille. Mais je crois qu'on devrait peut-être y remettre un tout petit, enfin un tout petit peu.
Ouais. Bon, on a l'avantage maintenant d'avoir Cabard Ready, l'émission Rob Dub Reggae Maloya j'ai du mal, qui nous suit maintenant le dimanche. Et c'est vrai que bon, le rhum, il arrive que le rhum coule à flot, même s'il faut le reconnaître, ce sont des petits slips et ils ont tendance à pas tenir trop la chopine. La chopine, j'entends.
À boire du rhum avec du jus de fruits.
Voilà.
Voilà, l'émission Easy Rider à consommer sans modération, c'est toujours sur Radio PFM en direct le dimanche à 18h et puis le rediff le lundi à 15h et le mardi à 22h30. On écoutait donc cette interview avec Olivier, Sylvain et aussi Bruno de l'émission Real Cool Trash, interview ressortie de nos archives de 2006. On vous repassait cela à l'occasion des 30 ans de PFM en 2011. Alors il y a plusieurs événements qui sont aussi organisés dans le cadre de cet anniversaire, à commencer par le vernissage de l'expo PFM 30 ans de radio libre qui aura lieu demain à 19h à l'Office culturel 61 Grand Place à Arras, suivi d'une soirée mix musicale au Couleur Café demain à partir de 21h. A noter qu'on vous proposera ces prochaines semaines d'autres interviews d'autres animateurs de PFM. Is back in the news today. They said some things, but don't worry, it's all talk anyways. A microphone is hard to play. You can write the next big craze. Don't be afraid.